France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
L'indépendance du Congo, l'assassinat de Patrice Lumumba, la CIA en action, la guerre froide, la chaussure de Khrouchtchev, les droits civils américains, le jazz omniprésent. Comment résumer ce documentaire sorti en salle ce mercredi qui retrace l'histoire courte de Patrice Lumumba et nous replonge dans des années 60 qu'on peut aussi regarder avec nos yeux de 2025. Nous le ferons avec Pierre Aski. Est-ce qu'Andrej Babis en République tchèque est le nouvel Orban ? Frédéric Seiss nous le dira en remettant le monde à l'endroit. Le reportage est en Autriche ce soir avec une association qui s'est donnée pour mission de nous aider à reparler ensemble autour de tables rondes ou carrées.
La dernière fois, il y avait une institutrice à notre table. Elle était venue avec son mari et nous avons tous pensé, bon, ce n'est pas vraiment quelqu'un de si différent. Elle nous a répondu qu'il travaillait dans la police et qu'elle voulait qu'un policier découvre ce projet.
Un reportage signé Isorias que vous découvrirez vers 18h41. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé Ottawa qui refuse d'exporter ses baleines en Chine pour sauver son Marineland. Et puis il y a déjà un après intelligence artificielle. C'est la super intelligence artificielle qui fait rêver les géants de la tech. Stéphane Jourdain va nous expliquer ce que c'est. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Mes amis, qui avaient lutté sans relâche, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force.
Ce discours mêlé de jazz, bien sûr, on y reviendra devant les dignitaires de la Belgique, y compris le roi des Belges. C'est celui donc de Patrice Lumumba qui vient de donner à son pays, le Congo, son indépendance. Nous sommes le 30 juin 1960, un discours qui a laissé ses interlocuteurs bouche bée. Bonsoir Pierre Aski.
Bonsoir.
Géopolitique, c'est vous, le matin à 8h17. Pierre, vous avez aussi écrit, après un podcast du même nom, un livre qui s'appelle « Décolonisation africaine ». Si on y revient ensemble, c'est parce qu'est donc sorti en salle hier un documentaire incroyable sur l'indépendance du Congo qui est signé du Belge Johan Grimont-Pré, ça s'appelle Soundtrack to a Coup d'État. L'extrait qu'on vient d'entendre donne l'esprit du documentaire qui mêle étroitement à la fois l'histoire mais aussi le jazz des années 60. On va expliquer pourquoi. Juste un mot quand même, Pierre, de ce discours qui marque tellement la personnalité de cet homme, Patrice Lumumba, devant le roi des Belges. Nous avons reçu les ironies et les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Pardon de le dire comme ça, mais ça a laissé tout le monde sur le cul et on le voit dans ces images.
Le discours n'était pas prévu.
Oui.
Le roi des Belges ne savait pas que Patrice Lumumba allait prendre la parole.
D'ailleurs, il le glisse dans l'oreille d'un autre. Ah bon, il devait parler ?
Voilà,
ah, oui.
Parce que c'est le président congolais, Lumumba était le premier ministre, c'est le président congolais qui répondait au discours très lénifiant, paternaliste du roi des Belges, et tout d'un coup, Lumumba se lève et il prononce ce discours incendiaire qui est sans doute la raison de son assassinat 6 mois plus tard. Il a signé sans doute son arrêt de mort ce jour-là, parce qu'il a été perçu par les Belges comme un agitateur, un ennemi à abattre.
Ce qu'il faut rappeler peut-être, et pour comprendre pourquoi cette indépendance-là est si importante et qu'elle raconte aussi toute cette histoire, c'est que j'ai presque envie de dire que c'était une colonie un peu particulière. D'abord, le Congo a été la propriété du roi des Belges.
Propriété personnelle.
Exactement, oui. Qu'il a donné ensuite, dans sa très grande mansuétude, à l'État. Mais c'était presque une entreprise privée au service de la Belgique. C'était ça le Congo à cette époque-là.
C'était un colonialisme qui était considéré, y compris par les Français ou les Anglais, comme étant particulièrement brutal et qui ne préparait pas les Congolais à se prendre en charge ou à gérer leur propre pays. Lorsque l'indépendance est arrivée, il y avait une poignée de diplômés de l'enseignement supérieur. La plupart des Congolais n'étaient pas sortis du Congo, là où, côté français, Senghor ou Fouette-Boigny avaient été ministres de la République, de la 4e République. Donc on est dans deux versions très différentes du colonialisme et les Belges ne voulaient pas, n'avaient pas du tout envisagé cette indépendance et tout d'un coup, lorsqu'ils ont vu la vague déferler sur le reste de l'Afrique, ils ont précipité le mouvement et en l'espace d'un an, le Congo est passé le Congo belge est passé de presque rien comme préparation à une indépendance totale et ça a été la guerre civile, le chaos. provoquée et soutenue par les intérêts économiques belges qui ne voulaient pas de Lumumba.
Alors, ce chaos, ce moment incroyable, on y reviendra aussi parce qu'il se passe tellement de choses entre le mois de juin, l'indépendance du Congo, et le mois de décembre, l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est dans ce laps de temps-là que tient ce film, derrière dans une espèce de fracas de jazz, de fracas d'images aussi, comme une énorme clip. Je voudrais d'abord qu'on écoute son réalisateur, et bien sûr, on y revient après. Il s'appelle donc Johan Grimont-Pré. Écoutez-le.
Il y a plusieurs couches. Avec la musique sur l'image, 1 plus 1 égale 3. Donc ça ouvre aussi l'espace cinématographique. Mais oui, c'est de la musique contre la politique. Et les musiciens, en grande partie, sont aussi des agents de l'histoire et de la politique. Nous avons aussi traité les politiciens, ou du moins leurs discours, comme les paroles d'une composition de jazz. C'est ainsi que nous envisagions le montage. Et puis, au fur et à mesure, nous avons découvert encore beaucoup d'archives. Par exemple, nous avons découvert William Burden, qui était le président du MoMA à New York, aussi conseiller du Pentagone et PDG de Lockheed, mais qui fut nommé ambassadeur des États-Unis à Bruxelles, où il fit la connaissance du roi, tout en étant aussi agent secret de la CIA. On parle du président du MoMA. Nous avons trouvé un enregistrement audio qui m'a littéralement fait tomber de ma chaise. On l'entend dire clairement que les Belges envisagent d'assassiner Patrice Lumumba, et que ce n'était pas une mauvaise idée non plus. Il ajoute même « Patrice Lumumba est un tel emmerdeur, nous devrions envisager un assassinat politique ». Il envoyait des câbles au directeur de la CIA, Alain Delès. Cet enregistrement audio, jamais publié auparavant, nous l'avons eu. Nous nous sommes dit « Ok, faisons-en un point d'intrigue ». C'est le moment où le film bascule de la comédie vers le thriller. En fait, ça commence un peu comme ça. On pourrait même qualifier ce film de PDF académique déguisé en clip musical, mais en version long-métrage. Il y a tous ces genres qui se percutent. Travailler toutes ces strates me semblait intéressant. Au début, il y a toute cette joie de l'indépendance, beaucoup d'humour et la musique qui accompagne ce voyage vers l'indépendance. Et puis soudain, boum, tout bascule. À mon sens, la musique est vraiment devenue un protagoniste du film. Et il se termine sur le cri d'Abby Lincoln. C'est là que tout prend sens. Elle, avec la Women's Writer Coalition à Harlem, ce sont les musiciens qui initient ce processus, protestant devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est là que la musique, l'ONU et la contestation autour de Patrice Lumumba se rejoignent.
Ce qu'il faut nous ramener à cette année 1960, vous l'avez dit, celle des indépendances, c'est venu quasiment comme une traînée de poudre, celle du Congo probablement l'une des plus emblématiques, mais c'est aussi le moment où les puissances, les États-Unis, la Russie, se rendent compte que le monde est en train de changer, que quelque chose est en train de tourner et qu'il faut mettre la main dessus. C'est ça que ça dit aussi.
Il y a le croisement de plusieurs phénomènes. Il y a la guerre froide, il ne faut quand même pas oublier, et c'est fondamental pour comprendre cette histoire, parce que Lumumba est une victime collatérale de la guerre froide. Il y a le jazz, qui est partie intégrante de cette époque, et il y a le phénomène de décolonisation. C'est Kennedy qui est au pouvoir aux États-Unis, qui donne une image moderne, mais derrière, il y a la CIA qui, elle, n'est pas très moderne. Et tout ça se retrouve, et on a l'impression d'ailleurs que le réalisateur a pris tout ça, il l'a mis dans un shaker, il a bien agité, ça, ouais. Et il en a fait un film qui est à 200 à l'heure, avec ces petits bouts d'histoire, la décolonisation, la CIA, la guerre froide, les minerais et cette décolonisation qui est un phénomène de l'époque. Le premier pays à accéder à l'indépendance, c'est le Ghana de Nkrumah en 56 et ça s'accélère dans les années 60. En 1960, il y a toute la série des colonies françaises qui accèdent à l'indépendance. Donc on a un monde qui bascule à cette époque.
Ce qui est fascinant et que le film nous aide à comprendre, c'est aussi combien cette période est aussi celle des batailles les plus brûlantes des droits civils. C'est ça qu'on voit également à l'image. On voit le rôle qu'a pu tenir Malcolm X à ce moment-là, surtout lui, en prenant fait et cause pour ces pays-là, en y voyant au fond aussi l'histoire des Noirs américains et les mêmes droits qui leur sont interdits. Écoutez ce qu'il disait, Malcolm X, on est au moment où juste avant la fameuse Assemblée Générale de 1960.
The most powerful bloc in the UN is the African-Asian bloc. You and I have to look at this and understand this, that the ballot is as powerful as the bullet.
La bataille est aussi forte que la balle qu'elle envoie, c'est ce qu'il dit Malcolm X.
Et il faut se souvenir que Nkrumah, donc le premier à accéder à l'indépendance et qui est considéré comme le père du panafricanisme, a passé 10 ans aux États-Unis. Et il a rencontré tous les chantres de, à la fois des droits civiques et du panafricanisme aux États-Unis. W.E.B. Du Bois, qui est l'un des penseurs de ce panafricanisme, est d'ailleurs enterré à Accra, au Ghana. Et donc il y a cette interconnexion très forte entre ce mouvement d'émancipation des Noirs en Afrique et l'émancipation des Noirs en Amérique. Et c'est une passerelle que va incarner dans le film, d'ailleurs, Louis Armstrong. Parce qu'il joue un rôle dans cette histoire, puisqu'il est envoyé par le gouvernement américain faire une tournée en Afrique.
Le soft power, c'est lui. Mais pas seulement lui, d'ailleurs.
Sauf que dans sa délégation, dans son groupe, il y a un cadre de la CIA, parce que la CIA utilise Louis Armstrong comme un cheval de Troie.
Exactement.
À son insu, semble-t-il.
Il sert de cheval de Troie. Il finit par s'en rendre compte, d'ailleurs, parce qu'il dit, moi j'ignorais complètement cette histoire, il dit, attends, me prenez pas pour un imbécile, je peux lâcher mon passeport américain et demander l'asile politique, ou en tout cas la nationalité du Ghana, mais il n'est pas tout seul. Dizzy Gillespie, Quincy Jones, Nina Simone, enfin, tous ces jazzmen noirs qui n'avaient pas de droit civil aux États-Unis ont été envoyés pour servir de soft power.
Les ambassadeurs d'une Amérique noire, moderne, qui devait établir des passerelles, des ponts avec ces nouvelles républiques africaines. Et on a tout ça qui se mélange dans le film, dans un espace-temps qui est extrêmement réduit, puisque c'est 6-7 mois maximum.
Parce que l'espace-temps de la vie de Patrice Lumumba, entre le moment où il devient Premier ministre et le moment où il meurt, effectivement, c'est 6 mois à peine.
C'est 6 mois, et il est assassiné par la Belgique, au Katanga, qui est la région minière où sont tous les intérêts économiques belges. Et c'est un événement qui a un retentissement mondial. Il y a des manifestations sur tous les continents pour protester contre l'assassinat de Lumumba.
Par la Belgique, avec l'assentiment de la CIA. Enfin, il y a ce moment où on a l'impression que le Congo est truffé d'agents de la CIA qui ont tous un dentifrice truqué ou n'importe quoi à destination de Patrice Lumumba pour le tuer.
Et ce qui a un écho avec notre période d'aujourd'hui, c'est que les minerais de l'Est du Congo, qui sont aujourd'hui au cœur de toutes ces guerres et de toutes ces rivalités internationales, sont au cœur de l'assassinat de Lumumba, parce que les États-Unis, la CIA, ne veut pas que le Congo bascule dans le camp soviétique, puisque c'est la grande crainte de la période de la guerre froide.
Il y a peut-être un autre parallèle, Pierre Aski, le film nous ramène à cette Assemblée générale donc des Nations Unies de 1960, où c'est la fameuse année de la chaussure de Khrouchtchev sur le pupitre, et on les voit, tous ces nouveaux pays africains et aussi asiatiques, on voit passer l'Indien, évidemment, on voit passer Nasser également, on voit qu'il touche du doigt cette idée des États-Unis d'Afrique, on voit émerger les non-alignés. Au fond, est-ce que ça ne nous renvoie pas aussi à notre période d'aujourd'hui, avec un Sud global qui est en train d'émerger, à quelque chose qui est en train de se passer, en tout cas avec ces pays-là?
Sauf qu'à l'époque, les Nations Unies étaient l'espoir de ces pays de peser sur la marche du monde, et qu'aujourd'hui, les Nations Unies sont en train de dépérir parce que ces pays ne pèsent pas et que le système est totalement bloqué, et que les Nations Unies finalement finissent par servir de plateforme et de théâtre à Donald Trump, comme on l'a vu la semaine dernière pour ce discours surréaliste.
Et c'est vrai qu'il y avait un autre usage, si j'ose dire, à l'époque. Est-ce que vous connaissiez cette scène? Moi, je l'ignorais. Après la mort de Lumumba, c'est Castro qui donne des billets à des femmes, à des Congolaises, et qui vont envahir le Conseil de sécurité, qui viennent dire c'est un scandale et c'est un assassinat.
Et Fidel Castro, et d'ailleurs, il y a une scène très intéressante dans le film quand il visite Harlem, parce que ça, c'est des images...
Invité par Malcolm X.
Par Malcolm X, absolument. Il va dans un hôtel d'Harlem où il y a une folie absolue de la foule qui acclame Fidel Castro. Ce sont des images qui sont très étonnantes quand on les regarde aujourd'hui, avec le recul de l'histoire.
Et ce qui est étonnant aussi dans les interviews des journalistes américains qu'on voit en archive, la seule question qu'ils posent, c'est « Are you a communist ?» Est-ce que vous êtes communiste? À peu près partout et tout le temps. Pierre, merci beaucoup. Merci. Pierre Aski, vraiment, c'est l'occasion de nous replonger dans Colonisation africaine chez Stock et France Inter, ou de réécouter les podcasts d'ailleurs. Le film s'appelle Soundtrack to a Coup d'État. Il est en salle, signé Johan Grimont-Pré, multiprimé notamment à Sundance. À voir absolument. Merci beaucoup. La suite dans Un jour dans le monde, c'est vous, Frédéric Seix, qui remettez le monde à l'endroit.
Pour ou contre les réfugiés ukrainiens, c'est le thème majeur des élections en République tchèque demain.
Allez, juste après ça. Amore, ce sont des Espagnols de la scène indépendante. Last Mary on Earth, c'est le titre et c'est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, Frédéric Saïs.
Fabienne Saintès. Le 18-20.
Frédéric, y aura-t-il un nouveau Viktor Orban au Conseil européen ?
Dans ses diatribes contre l'Ukraine, le Premier ministre hongrois doit parfois se sentir un peu seul à la table des 27. À chaque Conseil européen, le voici qui fulmine contre les sanctions imposées aux Russes, vilain petit canard de la mare bruxelloise. Alors évidemment, Orban va suivre avec attention le résultat de ces élections en République tchèque, vote demain et après-demain, et pour l'instant, en tête des sondages, un certain Andrej Babiš, milliardaire populiste qui a centré sa campagne sur l'Ukraine, ou plutôt contre elle, dans son viseur, les réfugiés ukrainiens. Ils sont 350 000 dans ce pays de 11 millions d'habitants. C'est la plus forte proportion de toute l'Europe. Et ces Ukrainiens sont accusés, pour résumer, de manger le pain des bons tchèques, de profiter des aides sociales. Autre thème de campagne, l'inflation. Mais là encore, c'est lié à la guerre en Ukraine. Les Tchèques ont vu leur facture d'énergie bondir parce qu'ils ont coupé le gaz russe et ont acheté celui plus coûteux venu de Norvège. Cette inflation, le gouvernement sortant de centre-droit n'a pas su la juguler. À son bilan, la hausse du budget de l'armée et une réforme des retraites, le tout sur fond de discipline financière. Pas vraiment de quoi enthousiasmer les foules.
Mais alors, est-ce que le favori de cette élection, donc Andrej Babiš, est vraiment pro-russe ?
Alors, on ne peut pas vraiment aller jusque-là parce que, certes, il a fait campagne contre les réfugiés ukrainiens, certes, il a fait campagne contre l'argent dépensé aussi pour soutenir Kiev. En cela, il peut être rapproché de la rhétorique de Viktor Orban. Mais Babiš n'est pas pour autant pro-russe. D'ailleurs, il n'avait pas hésité, hein, quand il était déjà au pouvoir il y a 4 ans, à expulser vers Moscou une vingtaine de diplomates présumés d'être des espions. Alors de toute façon, ce n'est pas par grandeur d'âme hein, qu'il n'est pas pro-russe, notre ami Babiš. En République tchèque, en fait, si vous voulez être élu, c'est tout simplement impossible de s'afficher pro-russe, compte tenu du poids de l'histoire. L'écrasement du printemps de Prague par les soviétiques est encore dans toutes les têtes presque 60 ans après.
Alors ce qui caractérise surtout Andrej Babiš, c'est un opportunisme assez prononcé. En fait,
disons qu'il a l'échine souple en matière idéologique. Un exemple, au Parlement européen, ses députés ont d'abord siégé au sein du groupe centriste avec les macronistes, avant de tourner kazakh l'an dernier, de rejoindre les amis de Marine Le Pen au sein du groupe des Patriotes. En voici un que le grand écart n'effraie pas. Une certaine souplesse aussi dans son rapport à l'Europe. Homme d'affaires prospère, Babiš a bénéficié à plein du marché européen, mais étonnamment, il a changé d'avis quand Bruxelles est venu fourrer son nez dans les subventions pas toujours claires qu'il avait reçues. Le voici donc eurosceptique. Alors officiellement, il rejette toute sortie brute de l'Union européenne, pas de Chexit au programme. Mais attention au retournement de veste, parce que d'après les sondages, Babiš, le populiste, devra passer des alliances s'il veut gouverner, notamment avec l'extrême droite nationaliste qui, elle, promet un référendum pour sortir de l'Union européenne. Alors saura-t-il tenir tête ? Une tête qu'il a coiffée d'une casquette rouge pendant sa campagne, en hommage à Donald Trump. Ça, c'est pour la casquette. La veste, elle, semble tout à fait réversible.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. Le reportage d'un jour dans le monde nous emmène ce soir en Autriche qui, comme nous tous, se désespère de nos sociétés désormais cloisonnées, archipélisées, comme le disent les sociologues, où nous avons tous désappris à nous écouter. Une association autrichienne essaie donc de faire mentir cette tendance lourde. Elle veut nous asseoir autour d'une table et pour ne vexer personne sans doute. Elle appelle ça l'Autriche des tables rondes et carrées. Ce sont des dîners dans l'espace public destiné à se faire rencontrer des gens d'horizons sociaux, culturels, politiques différents. Eh bien, allons dîner. Le reste, c'est Isorias qui raconte.
De grandes tables recouvertes de nappes blanches sont dressées au beau milieu d'une rue piétonne. Quelques passants pressés jettent un regard intrigué, puis peu à peu, les convives arrivent et s'installent à table d'abord autour d'un verre. Le dîner organisé par l'association L'Autriche des tables rondes et carrées a lieu ce soir dans le 7e arrondissement, mais les lieux varient selon les partenariats noués par l'ONG. Le concept est simple, chaque invité doit amener une personne très différente de lui, qu'il s'agisse d'âge, de confession, d'opinion politique, de classe sociale ou d'orientation sexuelle, car le but est d'élargir son horizon par des rencontres inattendues. C'est précisément ce qui plaît à Edith, 45 ans, qui fait partie de la vingtaine de convives.
Il y a 30 ans, quand on allait au café, on y rencontrait toutes sortes de personnes, des gens différents. Aujourd'hui, je vais au café quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Il n'y a plus autant d'espaces publics où l'on peut aller pour simplement passer du temps et engager des conversations. Et depuis le coronavirus, je trouve que les gens ne sortent plus.
Edith a amené avec elle Marie, qui est allemande et plus âgée qu'elle. Elle l'a connue il y a 15 ans à Salzbourg, où Marie Marie enseignait, Edith était alors sa directrice d'études. Si elles se sont revues depuis, ce soir c'est une grande première pour toutes les deux, une occasion rare et intéressante aux yeux de Marie.
En Allemagne aussi, c'est comme ça. On rencontre ses amis et à côté on a des contacts professionnels. Et il est difficile, même quand on le souhaite, de faire connaissance avec des personnes issues d'autres milieux ou même de se rapprocher un peu d'elles. Pourtant, je crois que plus la situation politique devient difficile, plus il est important que les gens entament la conversation.
Les plats et les verres se vident pendant que des musiciens indiens chantent et dansent. Quelques feuilles de papier sont posées sur les tables avec des idées de questions pour briser la glace et peu à peu, des conversations se nouent. Daniel a osé faire le premier pas. Ce jeune enseignant de 24 ans habite la rue et a décidé au dernier moment, intrigué, de se joindre à la tablée. Geste qu'il ne regrette pas car ce genre d'échange est rare, selon lui, dans une Autriche où le débat politique polarise.
Un de mes élèves m'a demandé « D'où est-ce que je viens, moi, monsieur ?» Ma mère vient de Palestine, mon père de Syrie, et je vis à Vienne depuis l'âge de 2 ans. Je lui ai alors répondu « Pour moi, tu es viennois comme moi, car Vienne n'est pas une, mais multiple. Mais c'est quelque chose qu'on oublie très facilement. Je remarque aussi dans la salle des profs à quel point les opinions sont polarisées. On a besoin de discuter en mettant l'accent sur des choses positives et ne pas toujours parler de politique. On y vient tôt ou tard. Mais quand on comprend d'abord les gens et leur histoire, on ne peut pas être trop en colère.
La participation à ces dîners est gratuite. Depuis le lancement de l'initiative il y a 6 mois, 39 dîners rassemblant près de 2000 personnes ont eu lieu. Et chaque fois, selon l'organisatrice Katharina Jeschke, l'ambiance est à l'écoute et au partage, loin du ton conflictuel souvent observé sur les réseaux sociaux.
La dernière fois, il y avait une institutrice à notre table. Elle était venue avec son mari et nous avons tous pensé « Bon, ce n'est pas vraiment quelqu'un de si différent ». Elle nous a répondu qu'il travaillait dans la police et qu'elle voulait qu'un policier découvre ce projet. Il y avait aussi avec nous un sauveteur originaire de Jordanie et 2 personnes vivant seules dans des logements sociaux. C'est exactement ça notre but. Créer des zones de rencontre où je peux sortir de ma réalité, car sinon je crois que le monde entier fonctionne comme chez moi.
L'ONG est de plus en plus sollicitée par des particuliers, entreprises, associations ou institutions et projette d'organiser davantage de dîners, y compris dans les autres régions autrichiennes.
Voilà, parlons-nous en rond ou en carré, Isorias, pour le reportage. Merci beaucoup. La suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars, attrapée au vol par Guillaume Audin.
Voilà, et on va pousser de la fonte en Norvège avec nos petits bras musclés, mais surtout pas dopés.
Le jeudi, nos vies numériques dans la tech, la première, Stéphane Jourdain.
Imaginez que vous avez Albert Einstein et Léonard de Vinci dans la poche, c'est ce qu'on appelle la super intelligence artificielle, évidemment.
Allez, à tout de suite, une petite escale avant mi-allemande, mi-nigériane avec Ayo, Down on My Knees, sur France Inter.
I'm begging you, down on my knees.
on my knees, Ayou. Que se passe-t-il donc sous les radars? Eh bien, Guillaume Audat le sait.
La mission multinationale de soutien à la police haïtienne en une force.
On commence donc en Haïti, Guillaume, où l'ONU change de stratégie face aux gangs. Plus d'hommes, plus d'armes, mais sur place, l'espoir reste fragile.
Oui, parce que la dernière mission internationale menée par le Kenya n'a jamais produit de résultats. Sur les 2500 policiers promis à l'époque, à peine 1000 ont mis le pied sur l'île. Manque d'argent, manque d'effectifs, incapacité à reprendre le contrôle du terrain. C'était couru d'avance. Haïti, plus que jamais, s'est enfoncé dans la violence depuis 2021. Ce sont les gangs qui font la loi et qui plus est désormais recrutent dans leur rang criminel des mineurs et parfois même des enfants. Le bilan catastrophique des milliers de morts en 4 ans et au moins 1 300 000 déplacés, 10% de la population, ça n'est pas rien. Alors changer de stratégie, oui, avec la toute nouvelle FSG, la force de suppression des gangs, soutenue à l'ONU par les États-Unis et le Panama. Objectif, doubler les moyens, recruter jusqu'à 5500 soldats avec un QG opérationnel établi à Port-au-Prince. En clair, le salut ou le chaos pour Haïti. État failli, on ne le souhaite pas, au cœur de la Caraïbe.
The Federal Department of Fisheries and Oceans has denied permit requests from Marineland Canada to export.
Une décision lourde de sens au Canada. Hors de question de brader la vie des belugas au nom du divertissement.
Et c'est à la une des journaux télévisés au Canada. Pourquoi ? Parce qu'Ottawa fait un choix radical pour sauver ses mammifères marins, ses belugas. La capitale canadienne refuse d'une part de céder aux sirènes d'un parc d'attractions chinois, prêt à mettre plusieurs millions de dollars sur la table pour s'emparer de ses 30 cétacés. Et d'autre part, refuse de sauver des eaux le Marineland du Niagara Falls qui les possède. Un parc canadien noyé sous les dettes, promis à une faillite certaine, mais pire, derrière les fontaines et les grands bassins, un véritable cimetière à baleines. Depuis 2019, 20 de ces animaux marins sont morts en captivité, malades, épuisés, mal alimentés. Il y a derrière cette décision du Canada un veto clair à l'industrie des parcs aquatiques. Plusieurs solutions sont à l'étude pour sauver ces belugas. Par exemple, des baies marines semi-naturelles, protégées mais ouvertes sur la mer. On en trouve aux États-Unis. C'est une alternative crédible à ces cirques marins que sont les parcs aquatiques.
Smooth. Yeah. Well, he's a no-foot snatcher. He never moves his feet, even in the clean.
Et bim, 180 kilos, dites-moi, la barre soulevée, arrachée sans difficulté. La Norvège accueille ce jeudi les championnats du monde d'haltérophilie.
Voilà, la petite ville de Førde, pas très loin de Bergen, à l'ouest du pays où l'on attend les plus beaux bébés de la planète, dont le géorgien Lachat Alakadze, un colosse capable de soulever en épaulé jeté, tenez-vous bien, 267 kilos, c'est plus lourd qu'un ours brun. Voilà pour le décor.
Comment vous le savez? Vous avez déjà soulevé
parce
un ours?
Parce que j'ai calculé, j'ai essayé. C'est lourd, c'est C'était difficile, c'est lui qui m'a soulevé. En tout cas, voilà pour le décorum, la coulisse, bah, elle est un peu moins glam. Hein, cette discipline, l'haltérophilie, c'est l'une de celles au monde qui traîne la réputation la plus lourde. Parce qu'en plus de soulever de la fonte, un nombre important parmi ses athlètes soulève également de graves soupçons. Ce sport rime avec dopage, les chiffres sont éloquents. Pas moins de 37 médaillés des JO de Pékin 2008 et Londres 2012 ont été déchus pour tricherie. 5 violations antidopage à Paris 2024. Conséquence, le Comité international olympique met la pression sur la Fédération internationale d'haltérophilie qui organise ces championnats du monde en Norvège. Pour rester au programme de Los Angeles 2028, les haltérophiles seront désormais soumis à des tests externes très sévères, loin des petits arrangements, dit-on, qui prévalaient auparavant. Si l'haltérophilie veut rester olympique, il faudra qu'elle montre patte blanche d'ours brun.
Voilà, bah allez soulever des ours, vous reviendrez lundi. Merci Guillaume Audat. Stéphane Jourdain parle de virtuel en présentiel, ça s'appelle la Tech la première.
France Inter, le 18-20.
Et Stéphane, vous nous parlez ce soir de la course à la super intelligence artificielle que se livrent les géants de la tech. Et donc j'ai bien dit super intelligence artificielle, c'est la prochaine frontière et tous les moyens sont bons pour y parvenir en premier.
Oui, si vous dirigez une PME et que les fins de mois sont difficiles, sachez que Mark Zuckerberg n'a pas les mêmes problèmes. Dans ce podcast de la semaine dernière, il parle de l'argent investi dans la super intelligence et le patron de Meta n'est pas à quelques centaines de milliards près.
À la fin, si on a dépensé quelques centaines de milliards de dollars pour rien, eh bien, tant pis, c'est la vie. Je pense que le vrai danger, c'est de ne pas dépenser assez. En matière de super-intelligence, si vous y allez trop lentement, vous allez être largué, alors même que c'est la technologie qui va générer la plus grande innovation et la plus forte création de valeur ajoutée de l'histoire. Alors croyez-moi, le risque, c'est de ne pas être assez agressif. Ce n'est pas le contraire.
La plus grande innovation de l'histoire.
Alors dites-nous ce que c'est, cette super-intelligence.
Voilà la définition d'Eric Schmidt, ancien patron de Google, c'était il y a quelques semaines.
Quand la super-intelligence va arriver, vous aurez tous un savant omniscient avec vous. C'est comme si vous aviez Albert Einstein et Léonard de Vinci dans votre poche. La question, c'est comment vous allez utiliser cette incroyable ressource. On va voir, mais vous pourriez avoir 30% de croissance du PIB chaque année grâce à ça. C'est un monde d'abondance qui arrive. Avec beaucoup moins de maladies, beaucoup moins de pauvreté et beaucoup plus d'opportunités. Un monde plus fun, si vous voulez.
Albert Einstein et Léonard de Vinci à côté de vous au bureau, ça doit vous rappeler l'équipe du 18-20, Fabienne.
Alors, on imagine que la super-intelligence fait aussi revenir l'être aimé.
Presque. En tout cas, Bill Gates nous promet la semaine de 2 jours d'ici 10 ans, 2035. Écoutez cet échange avec Jimmy Fallon.
En ce moment, nous vivons à une époque où l'intelligence est plutôt rare. Vous savez, les bons docteurs, les bons profs, et avec l'IA d'ici 10 ans, tout ça va devenir gratuit et disponible partout. C'est un monde tellement ahurissant qui arrive. À quoi vont ressembler nos jobs? Est-ce qu'on va travailler 2 ou 3 jours par semaine? Tout ça est un peu effrayant.
Est-ce qu'on aura toujours besoin des humains?
Plus pour grand-chose, non. Nous n'en aurons plus besoin pour fabriquer des produits, les déplacer ou cultiver de la nourriture. Avec le temps, nous n'aurons plus ce genre de problème.
Zuckerberg, Eric Schmidt, Bill Gates, si ces 3 hommes ont raison, il faut vite mettre en place le revenu universel.
Alors attendez, pardon, pouf, 2 secondes, de quoi parle-t-il exactement?
Jusqu'à maintenant, on parlait de la prochaine frontière de l'IA comme l'intelligence artificielle générale, quand une IA surpasse toutes les capacités cognitives des humains, traduire toutes les langues, découvrir de nouveaux médicaments, gagner toutes les parties d'échecs. La super-intelligence, c'est le stade encore après, d'ici 3 ou 5 ans, quand non seulement l'IA surpasse l'intelligence humaine dans tous les domaines, mais qu'en plus, elle s'améliore toute seule à partir de ce qu'elle a produit elle-même. Mark Zuckerberg a eu très récemment un tout petit aperçu de cela. Écoutez.
On a eu les premiers aperçus de ce que serait la super-intelligence avec une équipe de Facebook qui, grâce à notre IA maison, a pu créer un agent autonome qui a réussi à améliorer plusieurs parties de l'algorithme de Facebook. En gros, cette IA autonome a réussi à mettre en œuvre un certain nombre de changements pour lesquels un ingénieur de niveau intermédiaire aurait été promu. Je pense que c'est la première fois qu'on voit une IA qui parvient à faire ça de façon autonome.
Mais donc, est-ce qu'il faut le croire? C'est donc tangible? C'est pas un délire de la Silicon Valley?
On a posé la question à 2 experts, Raja Chatila, chercheur en intelligence artificielle, professeur à la Sorbonne. Faut-il croire à la super-intelligence?
On ne va jamais atteindre la super-intelligence parce que c'est un horizon fuyant. Parce que comment savoir si j'ai atteint ce niveau? Il n'y a pas de preuve formelle. Donc tous les jours, je vais dire, dans 1 mois, dans 5 mois, dans 3 ans, je vais atteindre la super-intelligence. Et à échéance, il y aura un système qui sera assez performant. Et si je l'appelle super-intelligence, je l'appelle super-intelligence, si vous voulez. C'est eux qui vont déterminer le vocabulaire. C'est ça le problème. Mais la super-intelligence est un concept qui n'existe pas.
2e spécialiste, Ioana Manolescu, chercheuse en informatique à l'INRIA, prof à Polytechnique. La nouvelle hype de la super-intelligence chez les GAFAM l'amuse beaucoup.
On ne voit pas les détails de quoi ils parlent, et c'est en partie l'idée. Ils ont juste trouvé un nouveau terme, la super-intelligence, pour trouver un nouveau rêve à vendre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a la moindre idée de comment y arriver, et je me permets de postuler qu'ils n'en savent pas beaucoup plus.
Pour elle, ni OpenAI ni Meta ne sont parvenus à atteindre le stade de l'intelligence artificielle générale, alors ils sont passés directement à l'étape d'après, la super-intelligence. Et c'est le modèle même de la Silicon Valley qui veut ça.
Ces industries sont dominées par les entreprises de Silicon Valley. Ce modèle d'affaires exige de faire rêver. Business model requires hype. Et donc, une entreprise qui a une valorisation boursière extraordinaire, mais pour l'instant des gains très modestes, a besoin de vendre le rêve suivant. Et donc, on a promis la super-intelligence.
Pour Raja Chatila, la Silicon Valley cherche même à nous faire peur.
Moi, je dis, c'est une course à la suprématie, à leur suprématie. parce qu'ils sont les maîtres d'une technologie qui diffuse dans notre vie quotidienne, puisque tout le monde utilise ChatGPT pour tout et n'importe quoi, et celui qui contrôle cette technologie contrôle le monde, évidemment. Quand on parle d'intelligence depuis le début, on compare à l'intelligence humaine. Et quand on dit super-intelligence, alors on nous fait peur. On va vous dire, pour la super-intelligence, vous serez comme des chimpanzés. Hein. Donc la peur qui est utilisée aussi avec des termes comme ça, est un élément de la suprématie.
Suprématie ou pas, Ioana Manolescu crie à l'arnaque. L'IA devait passer l'aspirateur à notre place pour nous libérer du temps pour lire des livres. Et pour l'instant, c'est tout le contraire. L'IA résume nos livres et nous, on passe l'aspirateur.
Mais quand même, Ioana présidente, moi j'ai envie de dire. Merci beaucoup Stéphane, vous reviendrez jeudi prochain.